France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous parlerons de chansons politiques avec Arnaud Marzorati qui revisite ce répertoire frondeur signé Béranger, Nadeau, Bruant et d'autres encore. Arnaud Marzorati est venu en compagnie de l'accordéoniste Pierre Cussac à l'occasion du spectacle « Votez pour moi, une fantaisie musicale et politique ». En fin d'émission, dernier volet des archives de Martin Péné sur Daniel Darieux. Mais avant toute chose, même s'il fait un peu plus frais, profitons du mois de juin pour aller dans les guinguettes.
L'existence, on voit des poules de luxe, c'est plein aux as et ça fait du palace. Faut que ça vous bloque, il faut que ça vous offusque, que ça jette du jus, que ça en mette plein la vue. Ça passe l'été au bord d'une plage, un trou par-ci ou bien un trou par-là. Ben moi j'ai horreur des voyages, et quand je me sors, je ne vais pas si loin que ça. Dans une guinguette près de la barrière, où c'est qu'avant il y avait les portifs, on va se taper sans plus de manière, des bigorneaux et de la friture au suif. C'est ça qui est batte, c'est ça qui est chouette, on fait pas de magne, on fait pas de chiquet. C'est du plaisir à bon marché, dans une guinguette. Avec Totor, quand arrive le dimanche et qu'il fait bon, on sort de notre garneau. On va tous deux pour s'en payer une tranche dans les bons coins où ce qu'on trouve les copains. Au Balmuset, tout ce qu'on gambille, on en fait une au son de l'accordéon. On est vraiment tous en famille, on peut venir en casquette et en chaussons. Dans une guinguette près de la barrière, où que c'est qu'avant il y avait les portifs, on va se taper sans plus de manière, des bigorneaux et de la friture au suif. C'est ça qui est batte, c'est ça qui est chouette, on fait pas de magne, on fait pas de chiquet. C'est du plaisir à bon marché, dans une guinguette. Comme Totor vraiment me trouve belle gosse, un jour viendra où ce qu'on sera marida. C'est régulier car le jour de la noce, oh quel gueuleton si qu'on a du pognon. On n'ira pas dans une grande tôle, se faire arranger comme le font les ruffins. Mais on ira, ça sera plus drôle, soit à la porte de Biscaye ou de Saint-Ouen. Dans une guinguette près de la barrière, où que c'est qu'avant il y avait des portifs. On se tape pas le chou, ça sera pépère, on ne fera pas comme les mecs qui chiffrent. Et pour que tout le monde soit de la fête, on rincera la gueule aux chiffonniers, pourvu qu'ils crient vive la mariée dans une guinguette.
Et voilà votre programme du week-end chanté par Fréhel en janvier 1934. Ça, c'était le divertissement à la française. Avant de retrouver mes invités, un petit peu de divertissement à l'allemande.
Thank you.
Donau Wellen Swing par Klaus Wunderlich, le regretté Klaus Wunderlich, disparu en 1997. C'était le roi allemand de l'orgamon, un musicien très populaire en son temps et dont je ne me lasse pas de réécouter les enregistrements.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais il est temps maintenant de retrouver mes deux invités. Nous allons parler de chansons politiques. Vous savez, la France, c'est le pays où, dit-on, tout finit par des chansons. Il y a une grande tradition dans ce domaine qui remonte au moins à plusieurs siècles, qui est au cœur d'un nouveau spectacle Voté pour moi, qui tourne déjà depuis quelques mois, qui sera à Paris dans quelques jours. Pour en parler, je reçois aujourd'hui l'accordéoniste Pierre Cussac et le chanteur Arnaud Marzorati.
Tu voudrais de l'avancement
et fidèlement tu changes de politique à chaque fois que change le gouvernement.
Servir la France et d'un bon patriote, mais blanc ce soir et demain sans culotte.
Ta politique
est celle d'un harlequin,
ce n'est pas celle d'un vrai républicain.
Dis-tu soulager la souffrance? T'aimes ton prochain, c'est de la fraternité.
Mais on prétend que quand tu fais bombance, tu n'invites pas le camarade d'à côté.
Se régaler seul, c'est d'un aristocrate. Et puisque tu veux passer pour un démocrate,
au malheureux, fais partager ton pain. C'est ce que doit faire un vrai républicain.
Tu dis, Finot, que l'heure est enfin venue de supprimer tous les gros traitements.
Mais t'es furieux parce qu'on te diminue de 15 francs sur tes appointements.
En vérité, j'admire ta bonhomie. T'es démocrate par bout d'économie.
À condition qu'on gratte sur le voisin.
Non, tu n'es pas un vrai républicain.
Enfin,
Finot, tu n'es qu'un égoïste. Ce que t'aimes au fond, c'est pas le pays, c'est toi.
Tu te prétends aujourd'hui socialiste. Je t'ai vu jadis crier « Vive le roi !»
C'est chez les autres que tu veux qu'on réforme. Ce que tu demandes la farce, c'est pour la forme.
Tu n'as jamais été comme un mannequin. Tu ne feras jamais un vrai républicain.
Votez pour moi, c'est un extrait de votre disque Arnaud Marzorati, bonjour.
Bonjour.
Cette chanson, un vrai républicain, avec des thèmes très très actuels, qui est réellement républicain, qui ne l'est pas d'ailleurs, c'est une question qui se pose aujourd'hui dans les partis politiques.
On l'a entendu tout au long des préparations des élections présidentielles, et encore pour les législatives, voilà, chacun se revendique avec ce mot essentiel et central dans notre politique, qui ou qui n'est pas républicain.
Réellement républicain, ouais. Mais sauf que là, c'est une chanson du 19e siècle d'un dénommé Frédéric Boissière, dont je ne sais rien.
Oui, alors...
Visiblement d'ailleurs, vous pas grand-chose non plus, ouais. Parce que dans votre disque, à la place de la date de naissance, il y a juste un point d'interrogation.
C'est ce qui est merveilleux, moi je trouve, dans ces chansonniers, c'est qu'on a encore plein de choses à découvrir.
Ouais,
on a vraiment encore de l'archéologie musicale à faire, parce que sur certains, on connaît pas grand-chose, voire rien du tout.
Voilà. Vous aviez quoi là? Vous aviez un petit format, comme on dit, une chanson avec la ligne de chant ou un piano chant ou
Petit peu plus, parce que justement le Palazzetto Bruzane, donc avait
qui parraine ce spectacle, oui. Avec qui vous travaillez déjà depuis un certain temps,
assez régulièrement, oui, a eu donc a hérité comme ça de tout un paquet de partitions, et là avec le piano. Donc ça, c'est déjà vraiment quelque chose.
Avec piano, d'accord.
Ouais, ça c'est intéressant. Ouais.
Évidemment. Alors cette chanson, donc, elle fait partie de ce spectacle que vous avez créé à Venise, justement avec le Palazzetto Bruzane au mois de février, qui sera donné à Paris le 13 juin au Bouffes du Nord et qui s'intitule « Votez pour moi ». C'est un vrai petit spectacle musical avec une espèce de fil conducteur, on peut dire.
Le fil conducteur, donc, proposé par le metteur en scène Flanant Aubé, ouais. Où on a vraiment la France qui se fait draguer par deux politiques, voilà, chacun avec un bord un peu plus à gauche, un peu plus à droite, et ils essaient désespérément par ces chansons de mettre la France, celle du peuple, dans leur poche.
Voilà, d'accord. Mais uniquement avec des vraies chansons du répertoire de ces chansonniers politiques du 19e siècle, principalement.
Ah oui,
seulement.
Oui, alors on est vraiment... alors sauf peut-être une chanson, je crois, mais globalement on est sous la Troisième République,
voilà.
et pour la plus grande partie, après la guerre de 70 et avant celle de 14.
Voilà. C'est vous qui avez choisi les chansons
Oui.
Parce que vous vous consacrez à ce répertoire-là depuis pas mal d'années maintenant, c'est une passion chez vous. Hein.
Voilà, on a fait donc un savant mélange avec Alexandre Radvicki, donc du Palazzetto Bruzane, où on a vraiment réfléchi ce spectacle en anticipant longuement à l'avance ces présidentielles. On s'est dit, il faut faire quelque chose, c'est pas possible, il y a un tel répertoire, et qui peut faire peur en général, parce qu'on dit, oh, la politique, ça va être, ça va être un petit peu grincheux, embêtant. Et voilà, on voulait faire un spectacle amusant, donc on s'est mis à la table et on a choisi parmi tout ce répertoire.
Alors on va y revenir d'ailleurs à ce spectacle, bien évidemment, puisqu'on est là pour ça, Arnaud Marzorati. Mais on va écouter, tiens, une petite chanson que vous avez choisie parmi d'autres. Je ne sais pas si on peut la relier au thème du jour, La Tyrolienne haineuse de Francis Blanche par les Quatre Barbus. Dites-nous en un mot.
Oh, moi j'adore Francis Blanche parce que c'est cette manière de faire. À l'époque du général, on va dire, voilà, où on pense que finalement tout est gardé comme ça, sans, il y a la censure, on peut rien faire, et on se rend compte que par une chanson délicieuse, on dit plein de choses sur l'ambiance du moment, et qui à l'heure actuelle aujourd'hui est tellement parlante, cette haine quotidienne qui monte, et là, Francis Blanche il s'en amuse avec délectation, et ça nous parle encore très fortement aujourd'hui.
Et l'art de dire les choses sans les dire, c'est peut-être quelque chose qu'on maîtrise moins bien aujourd'hui qu'effectivement dans
sans
ces époques.
On est beaucoup plus frontal aujourd'hui, j'ai l'impression.
Pour lutter contre la haine qui envahit le monde de toutes parts, Pierre Dac, le philosophe contemporain bien connu, a pensé qu'il n'y avait qu'une seule arme, la tyrolienne. En conséquence, nous allons essayer de vous interpréter une tyrolienne qu'il a fort à propos intitulée « Tyrolienne haineuse ».
Lorsque sans parti pris on établit le bilan de l'humanité d'aujourd'hui,
bien limpide comme un clair de lune et lumineux comme un clair de nos terres.
C'est parti tôt que les hommes seront frères et que malheureusement au contraire,
nous vivons à présent sous le signe affligeant de la haine et de ses affluents.
C'est triste et déprimant.
Y'a de la haine partout, y'a de la haine tout autour de nous, surtout partout, tous passent par en dessous.
De mémoire, de grincheux, jamais dans les yeux, on ne vit tant de regards haineux.
Ah, y'en a-t-il, y'en a-t-il, de cette haine qui suit les esprits, qui perdent le sens de la fraternité, et ainsi suit l'altruisme aussi.
Et lance l'altruisme est foutu et c'est couru, y'a pas plus d'altruisme que de beurre au goût.
Y'a plus que de la haine, si bien que dans le pays,
bientôt tout le monde sera haï.
Mais là où la chose se complique et devient tragique, c'est que la haine devient pour chacun
une espèce de besoin que d'authentiques sagouins
entretiennent de près comme de loin.
Il y a de la haine de toutes les nuances, de la haine standard ou de circonstance.
Il y a de la haine de bon ton pour les haineux de salon.
Et de la grosse haine de confection,
mais de toutes les façons.
Il y a trop de haine, oui, il y a trop de haine et il y a trop d'haineux. Ça tourne au scabreux et au scandaleux.
Car certains haineux, on arrive même entre eux à se traiter de tête haineux.
C'est un cercle vicieux, car quand un haineux est un autre haineux, celui qui hait est aussi par l'autre haï, de même que celui
qui est haï, haï sans celui dont il est haï. Chaque haï donc est un haï qui est. Ce qui fait qu'en fin de compte, on peut voir comme ça l'haï,
si l'haï,
là.
Et voilà, c'est comme ça. Oh, bien sûr, il n'y a pas.
Non, il n'y a pas de quoi.
En signe de joie,
se passer les paupières à la crème de Chester.
Avec une tringle à rideau de fer.
Il ne reste plus qu'une seule chose à faire,
c'est de rassembler par toute la terre
tous les hommes valeureux qui d'un cœur généreux
haïssent la haine et les haineux.
C'est ce qu'il y a de mieux.
Ah, dis donc, allons-y, roule les tambours et sonnez trompettes et dicons.
Suce à ceux qui suent la haine par tous les ports et qui se font un sport d'haïr de plus en plus fort.
Avoir la haine et les haineux, ainsi que ceux qui hurlent avec eux.
Assez de haine, assez de gens qui passent leur temps à haïr bêtement.
Si nous tenons bien que nous en viendrons sûrement à bout, la confiance alors mettra le monde d'accord.
Et l'on sera content de voir les hommes d'à présent
devenir de plus en plus confiants.
Haine par-ci, haine par-là.
Oh, y en a-t-il de la haine?
Un enregistrement public des Quatre Barbus dans cette tyrolienne haineuse. Alors d'ailleurs, je me corrige tout de suite, j'ai dit de Francis Blanche. Non, Francis Blanche l'a chantée, mais c'est son ami Pierre Dac qui l'a écrite, cette chanson que vous avez choisie, Arnaud Marzorati, mais qui est avec nous ce matin pour parler de Voter pour moi. Mais on va quand même faire un petit rappel, un petit retour en arrière, puisque j'avais eu déjà le plaisir de vous recevoir et pour nous dire comment vous êtes arrivé à cette passion des chansons d'autrefois. Vous qui avez à l'origine une formation musicale qui aurait pu vous conduire plus simplement et classiquement vers les chemins de la musique baroque, de la musique contemporaine, etc. Comment s'est fait cette évolution?
Déjà, c'est vrai que j'ai eu un temps où j'ai fait beaucoup de musique baroque, beaucoup d'opéra.
Vous avez été formé au conservatoire?
Voilà, absolument, centre de musique baroque de Versailles, puis après le CNSM, vraiment la classe de chanteur d'opéra normal, on va dire. Ouais. Et puis je suis tombé dans une marmite de littérature. C'est vraiment pour ma passion par la littérature. J'y suis venu.
Vraiment?
Oui, c'est vraiment en lisant Balzac, en lisant différents auteurs du 19e qui n'arrêtaient pas de citer...
Certains noms.
Voilà, certains noms, dont Béranger. Toujours voilà. ce fameux Béranger. Et puis aussi cette fameuse préface de Baudelaire... des chansons de Pierre Dupont. Donc tout cela m'a interrogé. Nerval aussi, Georges Sand, Lamartine, etc., qui parlaient très fortement de cette chanson française au cœur même de notre patrimoine littéraire.
Parce que quand on parle de chansons, on penserait d'abord à la musique, mais au fond, ce sont des personnages de la littérature du 19e siècle, ces auteurs de chansons politiques notamment.
Absolument, c'est cette petite chose, c'est une frontière, je dirais presque impalpable comme ça, mais la chanson avant toute chose, pourquoi des fois ça peut paraître un peu pauvre, entre guillemets, pour certaines oreilles érudites en musique, mais avant toute chose, c'est de la littérature, ce qui compte, c'est le texte. Donc moi, je suis vraiment tombé amoureux de ces chansons de Béranger, et je me suis dit, mais il y a un travail à faire, parce que j'ai découvert qui plus est que ce Béranger, c'était quand même quelqu'un d'aussi célèbre que Victor Hugo à son époque.
Mais est-ce que c'est d'ailleurs une tradition plus particulièrement française que cette chanson politique qui a été effectivement très très présente dans l'histoire de ce pays?
Du moins, a-t-on le plaisir de le dire. Voilà, ça, c'est voilà, peut-être
en France,
notre.
Tu finis par des chansons,
voilà,
etc. Oui,
ah, bon. Sébastien Mercier ou des choses comme ça, ou aussi ces Mazarinades qui sont vraiment au centre de notre histoire, où on
aime bien l'idée qu'on est le pays frondeur. Par
voilà, c'est ça, et qu'on a aussi le plus bel hymne avec la Marseillaise. Hein. Ouais. On a quand même ce truc français de dire, on a une leçon à dire au monde, et nos chansons, on croit que tout le monde va les connaître et qu'on va faire passer des messages très forts.
Alors évidemment, effectivement, Bruant, pour citer l'un des plus célèbres, on le connaît parce qu'on a aussi ses enregistrements, mais vous, ceux qui vous ont intéressé, on n'a évidemment aucun enregistrement, qu'il s'agisse de Gustave Nadeau, à qui vous aviez consacré un disque, oui, pour lequel vous étiez venu ici. Rappelez-nous qui était Gustave Nadeau.
Alors Gustave Nadeau, alors on a Béranger qui lui est plutôt sur la première période du 19e, oui, et Gustave Nadeau, c'est vraiment le chansonnier contemporain du Second Empire, oui, et qui lui-même écrivait ses musiques. Donc c'est aussi une des spécificités et des raretés de ces chansonniers, c'est que lui, il est mélodiste. Donc c'est pour ce pourquoi j'ai fait un travail, parce qu'il y avait vraiment aussi un travail musical très intéressant à faire.
Voilà, et tous ces auteurs, ils sont mélangés évidemment dans votre nouveau spectacle que vous montez avec La Clique des Lunésiens, qui est votre compagnie.
Oui, c'est ça, c'est vraiment La Clique en ce sens, vraiment, parce que c'est une compagnie, mais c'est des amis vraiment de musiciens multiples, et où on s'adapte selon les périodes de chansons, puisqu'on peut aller jusqu'à la fin Renaissance et même jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc selon les programmes, en général, j'adapte et je fais venir des amis musiciens.
Pourquoi les Lunésiens ?
Alors les Lunésiens, c'est Raymond Queneau qui dit « Les Lunésiens, ce sont les habitants de la Lune ». Et ayant fait beaucoup, beaucoup de musique baroque de l'époque de Louis XIV, ce soleil toujours omniprésent, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu lunaire dans mon lunaire interprétation.
Ouais. Alors on va écouter ce titre, évidemment, dans le contexte de notre époque, particulièrement savoureux et intriguant, une chanson de Béranger justement qui s'intitule « Le pape musulman », qui faisait partie de votre disque Béranger. Réexpliquez-nous avant qu'on l'écoute, en gros, pourquoi le pape musulman ?
Pourquoi le pape musulman ? Parce qu'il est central, même si je ne l'ai pas mis dans ce programme de politique, c'est pour voir aujourd'hui où nous en sommes. Cette chanson, elle a été composée dans la fin des années 1820, et c'est quand même ce pape qui va donc se convertir, il va devenir musulman, il va faire de sa Bible des choses assez douteuses, il va se retrouver dans un harem, et finalement il voudra marier le clergé et vider les monastères. Donc ça, on écrit quand même ça au début du 19e siècle. Et imaginez aujourd'hui si un chansonnier, un compositeur, osait faire une chanson comme ça.
Ah, il aurait quelques petits soucis, vraiment des problèmes, j'ai l'impression.
Jadis voyageant pour Rome, un pape né sous le froc, pris sur mer fut le pauvre homme, mené captif à Maroc. D'abord il tempête, il sacre, reniant Dieu bel et bien.
Saint-Père lui dit son diacre, vous vous damnez comme un chien.
Sur un pal que l'on aiguise, croyant déjà qu'on le mette, le fondement de l'église dit invoquons Mahomet. Ce prophète en vaut bien d'autres, je me fais son paroissien.
Saint-Père, on est des apôtres, vous vous damnez comme un chien.
Aïe, aïe, on le circoncise, le voilà bon musulman, sinon parfois qu'il se grise avec un coq animal. Il fait de sa vieille Bible un usage peu chrétien.
Saint-Père, c'est trop risible, vous vous damnez comme un chien.
En vrai corsaire, il s'équipe, pour le croissant, il combat. Prend le sorbet et la pipe, dans un harem il s'ébat. Près des femmes qu'il capture,
voyez donc ce grand vaurien. Saint-Père, quelle posture, vous vous donnez comme un chien.
À Maroc survient la peste sous la fuite d'autres forbans qui dans Rome d'un air leste entre avec son beau turban.
Se fait condamner rebaptise.
Non, dit-il, ça n'y fait rien. Saint-Père, quelle bêtise, vous vous damnez comme un chien. Depuis front dans nos mystères, ce renégat enragé veut vider les monastères, veut marier le clergé. Sous lui l'église déchue, ne brûle juif ni païen.
Saint-Père, Rome est fichue,
veut vous damner comme un chien, veut vous damner comme un chien, veut vous damner comme un chien, veut vous damner comme un chien.
Pierre-Jean de Béranger, le pape musulman, c'était Arnaud Marzorati avec Yves Rechsteiner à l'harmonium et Freddy Eichelberger sur un piano Pleyel 1845. Vous êtes quand même un peu baroqueux là.
Hein, voilà, des compagnons.
Vous voulez les vraies couleurs d'époque, non, mais ouais. C'était important aussi pour faire revivre ces chansons, Arnaud Marzorati. C'était votre un de vos premiers disques dans ce répertoire, suivi par le disque sur Gustave Nadeau, un autre disque sur la France de 1780. Un autre disque sur les révolutions en chanson, les révolutions qui ont ponctué le 19e siècle, et puis un disque sur Lassner aussi, oui. Ce personnage des Enfants du Paradis, entre autres, qui vous fascine.
Ah oui, il est fascinant parce que lui-même dit dans ses mémoires que si il était devenu chansonnier, puisqu'il a écrit une lettre à Béranger, sans doute n'aurait-il pas été l'homme qu'il est. Au moment où il écrit ses chansons, donc il est emprisonné, 2 mois avant d'être guillotiné, il écrit ça et il est fascinant ce personnage parce que il est un petit peu ce premier témoin qui dit que s'il est devenu un malfrat, c'est parce que la société ne l'aimait pas et en plus il faisait un petit peu peur parce que c'était un intellectuel, un bourgeois criminel.
Donc voilà, il y avait un côté acte gratuit aussi. Voilà. Chez lui, oui. Marzorati, donc vous êtes au cœur de ce spectacle avec votre compagnie La Clique des Lunésiens. Vous êtes venu aujourd'hui avec Pierre Cussac. Bonjour Pierre Cussac.
Bonjour.
Vous êtes accordéoniste et bandoneoniste.
Exact, oui, voilà. Je pratique les deux instruments.
Et vous êtes associé depuis combien de temps au gré des spectacles, l'un et l'autre?
Ça va faire bientôt 2 ans, on va dire, à peu près 2 ans.
Comment vous êtes arrivé dans cette aventure?
On s'est rencontrés sur un spectacle consacré à Francis Blanche.
À Francis Blanche,
exactement.
Justement. Oui, voilà. Ah bon, mais alors c'est une autre passion commune, ça.
Oui, de toute façon, on a ce plaisir des mots, voilà. Chanter les mots, je pense que c'est quelque chose aussi que Pierre fait excellemment. En tout cas, il les accompagne avec son accordéon.
Je veux dire que vous écoutez les chanteurs quand vous les accompagnez.
J'essaye, du moins.
Et alors, Francis Blanche, justement, hier soir, je crois, encore, vous jouiez tous les deux ensemble dans un spectacle sur Francis Blanche.
Exact, nous jouions à Dunkerque. Voilà. On est arrivé ce matin, d'ailleurs, là.
Ça s'appelle la Symphonie de Poche, cette compagnie. Enfin,
voilà, on jouait avec un ensemble qui s'appelle la Symphonie de Poche, donc voilà, dirigé par Nicolas Simon. On est une douzaine de musiciens, dont un accordéon. Et donc le spectacle était dédié à Francis Blanche avec beaucoup de nouveaux arrangements sur ses chansons, entre autres, mais aussi des reprises de répertoire symphonique avec la Symphonie de Bizet, voilà, des extraits, des choses comme
voilà.
Ça.
Voilà, et vous serez donc ensemble hein, le 13 juin prochain dans ce spectacle voté pour moi au Bouffe du Nord. Mais alors justement, bah, vous aussi, Pierre Cussac, je vous ai demandé de nous proposer une ou deux musiques, et vous avez choisi une chanson de Francis Blanche que j'adore.
La fille du gangster.
La fille du gangster.
La fille du gangster a des yeux bleus comme son père, des cheveux blonds comme sa mère qu'on voit danser avec les autres gangsters. Mais la petite a quelque chose dans le sang qui lui vient de la tante Antoinette et qui désespère ses parents. Elle est honnête.
Et y a rien à faire contre ça. Les corrections ne la corrigent pas. Le sentiment, elle s'en fiche bien. Le raisonnement, ça ne sert à rien. Malgré les gifles de papa, chez le boucher, elle ne resquille pas. Et elle ne paye en faux billets que lorsqu'elle prend du faux filet. La fille du gangster a des yeux bleus comme son père, des cheveux blonds comme sa mère. Sa mère qui se revoit quand elle volait aux étalages. Mais la petite a quelque chose dans le sang qui lui vient de la tante Antoinette et qui désespère ses parents. Oh, elle est honnête. L'autre jour, son père avait projeté de cambrioler le bijoutier. Il avait tout fait, tout prévu. Oui, mais la petite l'a entendu. Et ne voulant pas qu'un brave marchand, qui a toujours vécu honnêtement, soit la victime des malandrins, eh ben, elle a mis le feu au magasin. La fille du gangster, yeux bleus, son père, cheveux longs comme sa mère. Sa misérable mère qu'on entend ronchonner. On ne fera jamais rien de cet enfant, je ne sais pas ce qu'elle a dans la tête, mais c'est vraiment désespérant. Elle est honnête. Elle a trouvé hier en se promenant un sac avec 800 000 francs. Vite, elle a couru le porter au commissaire de son quartier. Comme elle était dans la maison, elle a profité de l'occasion et lui a dit ingénument tout ce qu'elle savait sur ses parents. La fille du gangster a raconté au commissaire tous les exploits de son papa et de sa mère. Sa mère enfin calmée, car depuis 8 jours, elle est coffrée. Mais elle a compris les raisons de l'honnêteté de sa fillette qui lui vaut 25 ans de prison. Elle était bête.
Ah, on s'en lasse pas, hein, Francis Blanche. Non. Autant l'auteur que l'interprète. Merci pour ce choix, Pierre Cussac, d'un auteur que vous aimez tous les deux, Arnaud Marzorati, au point que vous l'interprétez ensemble. Mais alors, j'en profite, Pierre Cussac, parce que vous savez, dans cette émission, on aime beaucoup l'accordéon. On essaie de mettre en valeur cet instrument merveilleux. Et je voudrais donc que vous nous disiez, vous aussi, comment vous êtes arrivé là et comment d'abord vous êtes intéressé à l'idée de devenir accordéoniste.
Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut resituer géographiquement d'où je viens. Donc, je viens du Cantal.
Ah, Verne. Voilà, bah, tout est dit. Bah, voilà. Tout le monde joue l'accordéon.
Une donnée assez importante. Donc oui, j'ai commencé l'accordéon par le répertoire traditionnel très tôt, vers 5 ans et demi.
Comme ça se fait là-bas, dans les écoles de musique, dans les familles, il y a des professeurs.
Comme ça peut se faire, moi je viens d'une famille où il n'y a pas du tout de musiciens, mais où voilà, on aime tout le répertoire de la chanson. Entre autres, et voilà, c'est arrivé assez naturellement, on va dire.
Après, il y a l'idée quand même d'en faire son métier, c'est autre chose.
Exactement, ça c'est en effet autre chose. On va dire qu'au tout début, j'ai commencé avec un professeur qui s'appelle Patrice Soulier en cours privé, puis après j'ai eu l'opportunité de rentrer au conservatoire à Aurillac, l'école de musique à l'époque.
Qui a une classe d'accordéon.
Exactement, une bonne classe d'accordéon d'ailleurs. Et voilà, de fil en aiguille... Patrice m'a aiguillé vers du répertoire un petit peu plus ou contemporain ou classique.
Justement, parce qu'aujourd'hui, dans l'accordéon, il y a des mondes musicaux assez différenciés, même si on aime bien passer de l'un à l'autre. Il y a effectivement le répertoire classique, il y a le répertoire traditionnel, musette et autres, il y a le répertoire jazz, etc. Il y a le bandonéon que pratiquent certains accordéonistes. Alors vous, qu'est-ce qui vous attirait d'abord et finalement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au milieu de tout ça?
En fait, j'essaye de profiter de toutes les possibilités qu'offre l'instrument, c'est-à-dire que mon choix, ça a été de ne pas trop en faire finalement jusqu'ici. Ouais. C'est-à-dire d'essayer d'expérimenter des choses, donc aussi bien au bandoneon pour plutôt la musique de tango, le répertoire classique avec beaucoup d'arrangements que je fais pour des petites formations ou même pour l'accordéon.
Vous êtes vous-même arrangeur?
Voilà, c'est centré principalement autour de l'accordéon. On va dire que j'ai pas une science très très poussé de l'arrangement, mais en tout cas j'en fais avec grand plaisir.
En tout cas, on ressent dans ce disque, vous êtes associés tous les deux avec quelques autres musiciens, Votez pour moi, le disque du spectacle, à quelques nuances près, qu'il y a justement une recherche sur la couleur musicale. Alors comment ça s'est passé justement, toutes ces orchestrations, ces arrangements, Arnaud Marzorati?
Moi je propose les idées de base, voilà, ouais. je mets les ambiances notamment, bon, parce qu'il y a quand même des chansons où, comme vous disiez au début, on a juste la mélodie, le timbre, ouais. Donc moi je propose certaines idées, et puis après c'est vraiment en grande liberté, parce que je pense que ce qui est important pour ces chansons, ce n'est pas que de faire de la restitution, parce que ça pourrait devenir dangereux. Hein. On n'a pas du tout cette volonté de refaire comme la mouvance du baroque.
Il faut que ce soit vivant.
Vivant, voilà. Et avec la liberté de chacun, ça c'est important. Ouais.
Ouais. Et alors il y a une part d'improvisation même,
exactement,
éventuellement, Pierre Cussac.
C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que pendant les répétitions, et pendant aussi les concerts, ouais. L'improvisation est quand même vraiment centrale et génère finalement des choix et des chemins parfois inattendus pour des chansons. Donc alors, c'est vraiment très important.
On va vous retrouver justement d'ailleurs tous les deux ensemble avec les autres, mais dans une des chansons du spectacle qui s'intitule « Les complots ». Vincent Ispa, j'avais passé une de ses chansons avec Jean-Philippe Lafond l'autre jour, qui s'appelle Soirée électorale. Vous connaissez Arnaud Marzorati, voilà. Parce que lui, Vincent Ispa, on l'a dans lui-même dans certains disques 78 tours. C'est un des grands auteurs du genre.
Ah oui, c'est vraiment un auteur typique qui nous a laissé vraiment toutes ses chansons, voilà, qui représentent son époque, au cœur même de son époque. Oui.
Et d'ailleurs, avec ce nom qui revient, que les jeunes auditeurs ne connaissent pas forcément très bien, que c'est celui de Paul Desroulettes.
Et c'est savoureux, parce que Desroulettes, c'est ce chansonnier réactionnaire qui a tenté de faire un coup d'État, en plus. Hein. Ouais. Et voilà.
La chanson prend plutôt sa défense, là.
Oui, un petit peu quand même. En tout cas, je pense qu'il y avait une certaine sympathie entre chansonniers. Par exemple, on a cité Gustave Nadeau. C'est grâce à Gustave Nadeau si Eugène Potier, qui a écrit l'International, les textes, a pu publier, alors qu'ils n'étaient pas du tout du même bord politique. J'ai l'impression que voilà, il y avait côté savoureux entre hommes qui écrivaient des chansons.
Voilà, un frondeur peut être anarchiste ou royaliste, voire communiste. Ils peuvent se retrouver par le biais de la chanson.
J'ai l'impression. Ouais.
De grand matin, le préfet de police au ministre de l'Intérieur qui est toujours sorti dit avec terreur: on m'a parlé d'un complot, un narcisse, un fait de ministre en sursaut. Que ne le disiez-vous plutôt, un complot dans un chien? Un diable, mais ça va bien, cela va m'éviter la peine de le fabriquer. V'là plus d'un mois et demi qu'on a sauvé le pays, et si ça continue, le ministère est foutu. Mais subitement, au préfet de police, le ministre dit anxieux, dit-on, ce complot, c'est-il bien du sérieux? On ne connaît pas encore les complices, répond le préfet, mais depuis hier, à Saint-Denis, on s'en sent dans l'air. Le ministre assez maudit, décidons pas où il faut, que sans retard en cas nous arrêtions quelqu'un. Pour commencer, voyons, arrêtez donc, arrêtez de rouler de... Et nous verrons après. Un mois après, conspiration nouvelle. Dans quel quartier ça se passe ce type? Demande le ministre en fronçant le sourcil.
Je crois, dit le préfet, que ça se passe à Bruxelles.
À moins que notre douanier pourtant. Mais le ministre l'interrompant. Nous des grands moyens, parlons peu mais parlons bien. D'abord sortir au cas, faut arrêter quelqu'un. Pour commencer, voyons, arrêtez donc, arrêtez des roulettes. Et nous verrons après.
Tabidam salvok fakrejem. Tabidam salvok fakrejem. Tabidam salvok fakrejem.
Ah. Les complots de Vincent Hispa, chanté par Arnaud Marzorati avec Pierre Cussac à l'accordéon, Les Lunésiens. Et on voit d'ailleurs, là, voilà, dans le développement de la chanson, ces moments de liberté où vous jouez sur l'atmosphère, comme dirait Arlette.
Oui, il y a toujours ce temps de l'interprète où on peut s'amuser à volonté. Et même des fois, ça nous arrive de rajouter plusieurs minutes de grand délire.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, ça peut arriver dans un tour de chant. C'est ça qui est magnifique avec ces instrumentistes. C'est qu'ils savent, voilà, que soudainement, on peut péter un câble et voilà, il y a un feu d'artifice. Et je pense que c'était dans la tradition de certains chansonniers.
Pierre Cussac, dans ce spectacle, vous n'utilisez que l'accordéon ?
Exact, voilà. Oui.
Et le bandoneon, ce sera pour un spectacle sur la chanson politique en Amérique du Sud, un peu plus tard. En tout cas, voilà, c'est Les Lunésiens, c'est dans quelques jours, le 13 juin, pour la reprise au Bouffes du Nord de ce spectacle créé donc à Venise, avec vous-même, l'un et l'autre, et puis quelques autres, dont on peut quand même dire un mot, au moins.
Alors,
Notamment Lara Neumann,
voilà,
Ingrid
Perruche. Voilà, dans le rôle de la France, Ingrid Perruche.
Ah oui, parce que alors, les trois personnages sont caractérisés.
Sont absolument définis, puisqu'on est vraiment... un métingue, comme on disait à l'époque.
Un métingue, voilà. Le métingue du métropolitain.
Voilà, c'est ça. Avec les deux candidats, on va dire un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, mais on se rend compte qu'ils sont...
Alors vous êtes lequel ?
Moi, je suis un petit peu le gaucho, quoi.
Le gaucho.
Voilà, mais gaucho caviar. Hein, mais, et puis Lara, donc c'est cette France, mais cette France du peuple qui se retrouve à essayer de revendiquer la misère de la France. Hein, et donc, on essaie de la mettre dans notre poche.
Et l'autre, c'est Ingrid Perruche.
C'est Ingrid Perruche, voilà.
Qui, elle, joue plutôt la droite.
La droite, mais une certaine droite quand même populaire, hein, puisqu'elle va raconter qu'elle avait un métingue aussi féministe. Voilà, donc on est prêt à tout pour avoir cette France avec nous.
Ouais. Oui, c'est ça, oui. Ouais, de même qu'un artiste est prêt à tout pour avoir le public avec
nous. Voilà, c'est ça.
Et alors, pour ce qui est de la formation musicale, donc au Bouffes du Nord.
Alors, donc là, on a bien sûr Pierre Cussac à l'accordéon, Daniel Isoard au piano, pour un petit peu opposer le salon et la rue. Et puis moi, alors un instrument que j'adore beaucoup, joué par Mélanie Flao, c'est le flageolet.
Voilà, oui,
cette petite flûte du 19e siècle qui faisait danser aux guinguettes, hein, et très virtuose. Et puis elle joue aussi du basson. Et pour l'occasion, on aura aussi Antoine Bitran qui va se joindre à nous avec l'orgue de Barbarie, parce que ça, c'est nécessaire d'avoir cette coloration. Ouais.
Pierre Cussac, vous m'avez fait doublement plaisir quand vous m'avez proposé deux, trois morceaux, parce qu'il y avait La fille du gangster et puis il y avait Tony Murena.
Ah, oui.
Et puis c'est pas toujours fréquent, finalement, chez un jeune accordéoniste qui fait la musique contemporaine, de s'intéresser à des musiciens comme Murena, Viseur, Priva, Azola, qu'on fêtera bientôt sur France Musique.
Ah, bah là, vous avez cité des noms extraordinaires. C'est vrai que j'aime
Comment beaucoup. Vous avez découvert tout ça? Pas dans le Cantal, pas au conservatoire?
Pas au conservatoire, mais j'ai commencé en pratiquant des petites valses musettes et assez vite.
C'est vrai. Vous êtes arrivé à la valse swing.
Oui, on peut dire ça. Et c'est vrai que Tony Murena ou Gus Viseur sont, pour ne citer qu'eux, sont des personnes qui font preuve d'un jeu absolument incroyable, avec une finesse et aussi un talent de composition très 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 beau.
Vous essayez toujours un peu à ce genre-là aussi, parfois, un guitariste ou avec...
Ça arrive. C'est pas du tout la majorité de mon temps, mais rejouer ce type de morceaux me fait toujours très plaisir.
Thank you.
Quelle merveille.
Merveilleux.
Merci Pierre Pussac de m'avoir donné l'occasion de repasser Passion par Tony Murena avec les frères Ferré aux deux guitares. Voilà, c'est à la fois tranquille, virtuose, poétique, coloré, enfin voilà, bravo. Vous savez qu'on fêtera d'ailleurs les 90 ans de Marcella Zola ici le 24 juin.
J'ai entendu ça.
C'est quelqu'un que vous aimez, j'imagine.
Ah oui,
aussi.
Oui. Marcella Zola, un accordéoniste qui a fait vraiment énormément pour cet instrument.
Voilà.
Et on lui doit vraiment beaucoup, notamment, je pense, l'ouverture de la classe au Conservatoire de Paris.
Vous pensez qu'il est pour quelque chose?
Je ouais. pense, oui.
Bon,
oui
on en
oui.
parlera peut-être oui. avec lui le 24. C'est quoi vos projets, vous, aujourd'hui, Pierre Pussac?
Mon projet.
Au-delà des Lunésiens.
Au-delà des Lunésiens, bon, on a parlé de la Symphonie de Poche tout à l'heure.
Oui, Francis Blanche, donc.
Francis Blanche, mais aussi d'autres programmes. Par exemple, avec la Symphonie de Poche, on a fait une version de la Valse de Ravel qui a été arrangée pour accordéon soliste. Et
ah oui.
ensemble, voilà, donc il y a un CD qui sort très prochainement. Je joue aussi beaucoup avec une violoniste qui s'appelle Fiona Mombé, avec laquelle nous avons un projet qui s'appelle Smile, plutôt jazz, entre jazz et classique, avec des reprises de Gershwin, de Bernstein.
Vous ne souffrez ouais. plus du tout, comme la génération d'avant, d'une certaine image un peu méprisante qu'on pouvait avoir sur l'accordéon à une époque, non?
Bah, la vision d'un accordéon un petit peu méprisé, elle existe toujours, mais je pense que voilà, il y a eu quand même du chemin de fait. Et il y a tellement de musique possible que voilà, chacun peut potentiellement y trouver son compte. Donc je pense que cette image, elle est toujours présente, mais elle ne nous agresse pas. Enfin, en tout cas, moi, il n'y a pas de souci.
Et vous serez donc le 13 juin au Bouffe du Nord avec Arnaud Marzorati et les autres pour le spectacle Votez pour moi avec toutes ces chansons politiques. Vous nous avez dit d'ailleurs tout à l'heure à Arnaud Marzorati que, bon, que la Fondation Brouzane, qui fait évidemment avec Alexandra Dvicky un travail musicologique de fond essentiel, vous avez fourni des partitions, mais vous-même, j'imagine, vous cherchez depuis des années. Comment est-ce que vous travaillez? Je vois un auditeur là, nous signale à l'instant qu'il a une collection extraordinaire de chansons de Béranger à l'université du Michigan, etc. Comment est-ce qu'on repère les choses? Comment est-ce qu'on va les trouver?
Maintenant, on a bien sûr l'outil Internet où on peut fouiller la BNF, les différentes bibliothèques. Mais surtout, moi, c'est mes libraires. Voilà, j'ai différents libraires, différents endroits de France et de Navarre. Et c'est vrai que dès que je me déplace, hop, je vais chez les bouquinistes et je cherche. Et il y en a même certains oui, qui commencent un petit peu. Que j'aime bien, qui travaille un petit peu pour moi et dès qu'ils disent, ah on a trouvé ça et hop et voilà, ça me passionne. Il faut, de toute façon pour aimer ce type de chanson il faut aimer les livres, il n'y a pas de ouais. les vieux livres, voilà c'est
mais un auteur comme Béranger c'était une diffusion massive en même temps.
Ah c'était, c'est ce que disent de toute façon les bouquinistes, c'est plutôt ce genre d'ouvrage qu'on met sous une table quand elle est bancale, voilà tellement ils en ont
mais
après ça dépend des reliures parce que des fois je me bats avec des bibliophiles parce qu'il peut y avoir des belles reliures et des belles illustrations, mais globalement, oui, il y avait des éditions massives hein, de ces chansons. Ouais.
Voilà. Alors, donc, vous chantez, Pierre joue de l'accordéon, et puis vous sifflez aussi l'un et l'autre. Hein.
Voilà, c'est un des plaisirs. Moi, c'est par ce film de Renoir, French Cancan, où j'ai vu ce numéro de siffleur et je me suis dit, il faut que je mette ça là un jour dans les chansons parce que j'aime tellement siffler, c'est merveilleux. J'espère que, parce que j'ai l'impression que ça se perd peut-être.
Ah bah nous, on avait eu des rencontres merveilleuses avec Micheline Dax, qui était grande siffleuse devant l'Éternel, qui est venue siffler ici même. Et donc, vous sifflez dans le spectacle
voilà.
aussi. C'est quoi cette chanson, le galant siffleur?
Alors,
partie sifflée, partie chantée ou dite.
Voilà. Alors ensuite. Là, j'ai fait un montage entre donc cette composition vraiment écrite.
Oui.
Du galant siffleur et un texte d'un sénateur de la fin du 19e siècle qui dit qu'effectivement les mains des femmes ne sont pas faites pour le bulletin de vote mais plutôt pour être baisées amoureusement voilà quand ce sont les mères ou les amantes.
Thank you.
mains des femmes sont-elles bien faites pour le pugilat de la reine publique ? Plus que pour manier le bulletin de vote, les mains de femmes sont faites pour être baisées, 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 baisées dévotement quand ce sont celles des mères, amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées. Séduire et être mère, c'est pour cela, c'est pour cela, c'est pour cela qu'est faite la femme.
Ah, j'aime vraiment beaucoup cette chanson et votre interprétation avec au piano Daniel Isoard, Arnaud Marzorati. Mais j'ai l'impression que le temps passant, moi je compare vos disques, vous êtes de plus en plus justement chansonnier, comédien, chantant et de moins en moins, pour ce répertoire-là, en tout cas artiste lyrique au sens pur du terme.
C'est vrai que je... Finalement, j'assume de plus en plus cette casquette parce que
c'est très bien.
Ouais, voilà. Puis j'ai ce plaisir de plus en plus être soutenu par voilà par des structures qui me font confiance sur ce travail. Donc, comme je passe maintenant pratiquement la majeure partie de mon temps à être chansonnier, bah je le deviens. Voilà, j'ai une âme de chansonnier aujourd'hui.
Mais ça aurait un sens pour vous de retourner faire de l'opéra, du baroque ou de l'opérette, disons.
Oui, je l'ai fait. Hein. Par exemple, j'ai participé à la grande tournée des chevaliers de la table ronde. Voilà, donc.
Voilà.
J'aime aussi quand même de temps en temps retourner dans mes premières armes. Oui.
L'opérette, en tout cas, n'est pas très loin de ce répertoire-là. J'ai vu, par exemple, dans votre programme du spectacle Votez pour moi, le nom de Gaston Serpette, qui est un compositeur trop oublié d'opérette, dont vous chantez aussi chanson.
Oui.
Expliquez-nous sur Shakespeare.
Voilà, alors bon, c'est, il n'y a que le titre qui est shakespearien, mais voilà, c'est souvent, il y a ces duos politiques qui nous font une grande leçon de politique presque à la Talleyrand,
voilà.
La manipulation par la politique.
Et puis aussi les chansons qu'on pourrait évoquer dans l'opérette, évidemment, de la fille de Madame Angot,
oui.
Et d'autres ouvrages qui sont aussi dans cette tradition de la chanson politique.
Oui, donc on voit que ce sont presque les mêmes et qui se côtoyaient et qui connaissaient tout ce répertoire, en tous les cas.
Alors la chanson politique, c'est aussi Voter pour moi, c'est aussi la propagande politique. Alors j'ai ressorti un petit document qui va vous enchanter. C'est un tube disco peu connu, trop peu connu, de 1981. C'est la musique officielle de la campagne de Jacques Chirac. Voilà, il y a tous les thèmes, hein, le changement, la liberté, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça se veut dans l'air du temps. Et puis le mot Jacques Chirac, je trouve, sonne assez bien comme refrain, avec ses arrangements disco, vraiment d'époque. Tiens, on en écoute encore un petit bout.
Jacques Chirac, en avant, toute la nation.
Voilà, j'en avais d'autres en réserve, ça vous plaît, Arnaud Marzorati?
Alors, c'est vraiment délicieux, mais il faut se rappeler quand même qu'avec cette chanson, il a perdu.
Voilà, c'est vrai.
L'oublier.
J'avais aussi la chanson de campagne d'Alain Madelin. Il y en a une de Mitterrand qui est par Théodorakis, qui est pas mal non plus, ça vous plaît, Pierre Cussac?
Ah oui, c'est... Je connaissais pas.
Non,
j'ai découvert jeune. Quelque chose.
On dirait du Jean-Yann, je trouve. On a vraiment l'impression d'être dans cette ambiance, quoi.
En tout cas, la chanson frondeuse, la chanson politique, c'est quelque chose qui n'est pas terminé. D'ailleurs, vous aviez proposé, on ne peut pas tout écouter aujourd'hui, une chanson de Philippe Catherine, par exemple, qui s'appelle Marine Le Pen.
Hein. Ouais, voilà, moi, je trouve ça absolument génial. Et ce que j'adore, parce que je l'avais entendu, Philippe Catherine, pour moi, il est vraiment révélateur de ce que peut être la chanson pour tous ces chansonniers intelligents. On parlait de Francis Blanche, brillant. Philippe Catherine lui dit qu'il compose une chanson en 3 heures. Et au-delà de 3 heures, je crois, c'est plus bon. Voilà, il y a ce côté éphémère. Et spontané qu'on écrit au coin d'une table, et ça j'adore.
Et puis à propos de Marine Le Pen ou de son père, il y a aussi dans votre spectacle beaucoup de chansons sur Jeanne d'Arc.
Ah bah oui, l'incontournable Jeanne d'Arc. Et ce qui m'intéresse, c'est...
Elle a été très importante dans la chanson politique au 19e siècle. Hein.
Alors surtout sous la Troisième République, parce que cette Jeanne d'Arc, c'est vraiment à partir de 1870 à peu près, où elle prend de l'ampleur toujours plus, et où chacun la revendique, et ça on le voit dans notre spectacle.
Déjà, chacun voulait ça.
Bien sûr. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. On a même dit que j'étais socialiste, quoi. Donc ça, c'est dans une chanson de Jeanne d'Arc. Donc ça, c'est passionnant. C'est ce mythe de la France parmi les chansons.
Ouais, voilà, c'était votre spectacle, la présentation de votre spectacle qu'on va aller voir le 13 juin, Arnaud Marzorati. Vous pensez déjà au suivant, au disque suivant, au sujet suivant?
J'ai déjà des idées, oui.
Vous nous en dites une, non? Une petite piste? Non, pas encore?
Non, j'attends encore un petit peu d'être sûr, quoi. Voilà, par rapport
vous
à ça.
Vous viendrez nous en reparler.
Avec grand plaisir, oui.
Et puis Pierre Cussac, donc on vous retrouvera aussi sur la scène des Bouffes du Nord. Et vous nous avez apporter encore un autre morceau. Alors là, c'est votre côté bandoneon que j'ai trouvé magnifique. Je ne connaissais pas, alors je vais en profiter pour le passer. C'est le grand Hannibal Troilo.
Exactement.
Dont on a souvent parlé ici avec Jean-Louis Mingallon. Rappelez-nous pourquoi ce morceau, pourquoi Hannibal Troilo?
Pourquoi Hannibal Troilo? Parce que c'est quand même une personnalité dans le tango qui est vraiment une référence, et pas que musicale, c'est aussi un personnage de Buenos Aires.
Ouais.
Et il est vraiment réputé pour faire une musique très qui alterne des choses très piquées. Et très liée, très très vivante, beaucoup de pêche,
très
quoi.
Caractérisée,
oui.
Beaucoup de pêche, comme vous dites. Oui. On écoute ce morceau qui s'intitule
Orlando Goni.
Voilà, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Merci.
Orlando Goni par Aníbal Troilo et son orchestre typique. C'est un enregistrement de 1950 choisi par mon invité Pierre Cussac qui était ce matin en compagnie d'Arnaud Marzorati à l'occasion de leur spectacle. Alors je vous rappelle, le spectacle c'est le 13 juin prochain au Théâtre des Bouffes du Nord. Ça s'appelle Votez pour moi par la clique des Lunésiens avec aussi Lara Neumann, Ingrid Perruche. Et puis c'est dans le cadre du festival Palazzetto Bruzane à Paris, principalement au Bouffes du Nord, plein de concerts passionnants à découvrir.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Le Palazzetto Bruzane, qui d'ailleurs fait tant pour la redécouverte de la musique française oubliée, eh bien dans le même temps présente, ou co-présente si j'ose dire, à l'Opéra Comique Le Timbre d'Argent, un opéra de Saint-Saëns complètement oublié, qui n'a pratiquement pas été repris depuis sa création. C'est un opéra de jeunesse de Saint-Saëns, un opéra fantastique avec l'histoire d'un type qui, chaque fois qu'il le fait sonner un timbre d'argent, peut obtenir de l'argent, peut obtenir des pouvoirs, mais ça entraîne toujours la mort de quelqu'un. C'est un sujet qui a d'ailleurs été repris parfois dans le cinéma fantastique ou d'autres, et c'est un opéra donc qui est présenté à l'Opéra Comique du 9 au 19 juin, grande redécouverte de ce compositeur magistral qui a écrit 8 opéras, mais on ne connaît que Samson et Dalila. Et Le Timbre d'Argent, nous n'en savons rien, sauf cette petite phase de 78 tours enregistrée par Ninon Valin. Voilà la seule trace discographique de ce timbre d'argent de Camille Saint-Saëns, merveilleusement chanté par Ninon Valin. L'opéra entier, vous pourrez l'entendre donc à la Salle Favart du 9 au 19 juin prochain sous la direction de François-Xavier Roth dans une mise en scène de Guillaume Vincent. Et puis tiens, pour finir, le Palazzetto, toujours le Palazzetto Bruzane dans le cadre de son festival où on entendra le spectacle Votez pour moi, organise aussi des concerts et notamment pas mal d'œuvres de Saint-Saëns, parmi celles qu'on entend moins souvent que la danse macabre ou le carnaval des animaux, mots, tout un récital, notamment le 14 juin au Bouffes du Nord par Philippe Bianchioni. Moi, j'ai choisi pour vous une autre petite merveille de Saint-Saëns, très très oubliée, c'est la tarentelle pour flûte, clarinette et orchestre. Thank you.
Thank you.
Clara Novakova à la flûte, Richard Vieille à la clarinette avec l'ensemble orchestral de Paris sous la direction de Jean-Jacques Kantorov dans cette délicieuse tarentelle pour flûte, clarinette et orchestre opus 6 de Camille Saint-Saëns. Allez donc voir Le Timbre d'Argent à la Salle Favart. Et puis si vous voulez réécouter notre émission de ce matin et notamment l'entretien, allez sur le podcast francemusique.fr. Vous retrouverez l'intégralité de nos émissions. Mais maintenant, il est midi 14, c'est l'heure de retrouver Martin Péné et ses archives. Bonjour Martin.
Bonjour Benoît.
Troisième volet donc de vos
deuxième
de vos archives Daniel Darieux.
Oui, donc nous allons terminer cet hommage que je voulais absolument célébrer du centenaire de Daniel Darieux, qui peut-être nous écoute. En tout cas, ça nous ferait plaisir. Et donc j'en étais arrivé après la guerre dans les années 50, et c'est vrai que au tournant de la trentaine, Daniel Darieux effectue une sorte de mue artistique et personnelle. Elle abandonne les rôles de jeunes ingénues de ses débuts pour aborder des rôles de femmes à part entière, et on peut presque parler d'une seconde carrière qui démarre véritablement en 1949 avec Occupe-toi d'Amélie de Claude Autant-Lara, dont nous avions entendu une évocation à la fin de ma précédente chronique que j'avais consacrée à Daniel Darieux. Et Henri Lecoing l'emploie en 1952 pour un rôle très noir dans La vérité sur Bébé Donge, mais ce sont surtout les trois films tournés successivement par Max Ophuls qui marqueront une véritable consécration. Souvenez-vous, La Ronde, Le Plaisir et Madame 2, qui reste un des rôles préférés de Daniel Darieux. On la compare alors à Marlène Dietrich et même à Greta Garbo. Elle y chante une valse composée par Oscar Strauss sur des paroles de Louis Ducreux.
L'amour m'emporte, pourquoi lutter ou résister ? L'amour m'apporte tant de plaisir et de désir, clair diamant des lustres de la fête, beau soir de bal au bras de mon amant. Vite, c'est donc vite à la danse qui m'invite, car l'amour nous quitte si vite que j'en ai peur. Seule, déjà seule, je t'appelle et je pleure, mais l'écho répète le souvenir.
Daniel Darieux dans Madame 2 sur la musique du grand Oscar Strauss qui est là, vieux compositeur, a fait beaucoup de grandes musiques de films, notamment celle de La Ronde également. Et puis l'orchestre Valberg, ça n'est pas rien Martin.
Ah non, ça n'est pas rien. Alors c'est vrai que dans ces années 50, les films de Daniel Darieux donnent moins souvent lieu à des chansons que dans ces comédies des années 30 et 40, on s'en souvient, où c'était à l'époque presque systématique. Et pourtant, avec l'avènement du disque micro-sillon, Daniel Darieux donne dans sa carrière une part de plus en plus importante à la chanson. Elle est engagée chez Pathé Marconi en 1958 et elle enregistre pour le label La Voix de son Maître plusieurs dizaines de titres qui ne sont pas tirés de films, mais qu'elle crée ou bien qu'elle choisit parmi les succès du moment. Alors pour ses enregistrements, elle est accompagnée d'abord par l'orchestre de Franck Pourcel, puis durant plusieurs années par celui de Joe Moutet qui donne une couleur nettement plus jazz à ses interprétations, et on se souvient en particulier de Petite Fleur. D'après le thème bien connu de Sidney Bechet, qu'elle grave en 1959.
J'ai caché, mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur. Cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs lointains.
la vie par moments me trahit. Tu restes mon bonheur, petite fleur.
Petite fleur par Daniel Darieux en 1959. Je ne sais pas si vous m'en voudrez, Martin Péné, mais moi je préfère légèrement la Darieux de cette époque-là à celle d'avant-guerre comme chanteuse.
Ben en tout cas, c'est vrai qu'elle a beaucoup enregistré à cette époque-là et ouais. C'est intéressant de voir comment elle a évolué parce que c'est, en fait, c'est plus vraiment la même femme. C'est même plus la même femme, on peut dire. Elle a une carrière tellement longue. Alors, depuis la Libération, Daniel Darieux partage sa carrière entre cinéma et théâtre. Alors, côté scène, on peut d'abord signaler une reprise en tournée de Léocadia de Jean Anouilh en 1949 dans le rôle créé, bien sûr, par Yvonne Printemps. Et puis, Darieux se fait remarquer dans Évangeline de Henri Bernstein en 1952 aux Ambassadeurs. Et puis, c'est la reprise triomphale de Faisons un rêve de Sacha Guitry au théâtre Édouard VII en 1957 avec Robert Lamoureux. En 1963, elle crée La robe mauve de Valentine de Françoise Sagan. Et par la suite, on peut également citer Les amants terribles de Noël Coward, Gigi de Colette, Harold et Maude de Colin Higgins jusqu'à Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt qui lui vaudra tout de même un Molière en 2003. Et côté cinéma, alors je ne peux pas citer tous ses films, il y en a tellement, ni les nombreux grands acteurs avec qui elle a tourné, mais tout de même quelques réalisateurs, Julien Duvivier, Marc Allégret, Sacha Guitry, Claude Chabrol, sans oublier Jacques Demy, qui l'engage en 1967 pour jouer dans Les Demoiselles de Rochefort et fait pour elle une exception en ne la doublant pas au chant. Et c'est donc bien la voix de Daniel Darieux qu'on entend dans le film.
C'était une passion secrète. Je n'en ai parlé à personne. Personne n'en a jamais rien su. Pas même mes filles.
Vos filles. Depuis le temps que vous m'en parlez, j'aimerais bien les connaître.
Oh, mais taisez-vous donc. Et alors, cette passion, si je comprends bien, ça a mal tourné.
Mon fiancé avait un nom fort détestable, et ce nom m'agaçait plus qu'il n'est supportable. Alors je l'ai quitté sans un mot, sans adieu. Il y aura 10 ans que j'ai brisé ce nœud. Je lui avais appris dans le plus doux moment que j'attendais de lui l'heureux événement qui anoblit la femme et enorgueillit l'homme, car Boubou s'annonçait pauvre petit bonhomme. C'était un beau jeune homme et j'étais demoiselle, bien que j'aie eu déjà par hasard mes jumelles qu'il ne connaissait pas, elles vivaient en pension et ne rentraient jamais le soir à la maison. Quelques années plus tard, par un ami commun, je lui ai fait savoir qu'un riche Mexicain me proposait l'amour au bord du Pacifique. Ce n'était qu'un mensonge amer et pathétique. À présent, je suis seule et je n'ai plus 20 ans. J'ai voulu voir la ville où mon amour d'antan avait connu le jour, je m'y suis installée avec mes souvenirs épars et désolée.
Et vous ne savez pas ce qu'il est devenu?
Non. Il doit être à Paris.
Mais vous devriez aller le retrouver ou faire une enquête.
Ouais. Et comment s'appelait-il ce monstre?
Dame. Simon Dame.
Les Demoiselles de Rochefort et Daniel Darieux, qui est effectivement, je crois, la seule à ne pas être doublée dans les parties chantées du
voilà,
film.
Voilà, ce qui montre ses qualités vocales, chanteuse en plus d'actrice et de comédienne. Alors, en dépit de ses nombreux disques de chansons, Daniel Darieux a très peu chanté sur scène, curieusement. Parce qu'elle aime passer du théâtre au cinéma, mais elle semble redouter davantage le tour de chant qui, à son avis, demande plus de préparation que le tournage d'un film. Alors sa première tentative a lieu à l'ancienne Belgique, célèbre établissement de Bruxelles, puis au Casino de Trouville durant l'été 1960. Elle projette alors de prolonger l'expérience dans un music hall parisien, mais il faudra attendre 8 ans pour qu'elle se produise finalement au cabaret La Tête de l'Art, avenue de l'Opéra, en février 1968. Et à cette occasion, elle explique sa démarche au micro de France Inter.
Daniel Darieux, il semble qu'aujourd'hui, les jeunes chanteurs ignorent complètement le trac. Ça vous paraît pas...
Ils ont de la chance. Moi, ça me stupéfie beaucoup, parce que je peux pas penser qu'on peut ne pas avoir le trac. Ça, je dois dire, je les envie beaucoup, en tout cas, si c'est vrai.
Et ce premier tour de chant a été terrible pour vous, sur ce plan-là?
Ah oui, vraiment, je crois que j'ai eu la plus grande peur de ma vie, parce qu'une générale de théâtre aussi, c'est très impressionnant, mais... On n'est tout de même pas seul. Mais là, il y a cette solitude qui est assez terrifiante.
Sur quel point précis vos efforts ont dû se porter dans ce tour de chant, seul, bien sûr?
D'abord, de maîtriser des mains qui tremblent et les nerfs qui vous nouent la gorge. Et comme quand même, pour chanter, il vaut mieux avoir la gorge dénouée. C'est ça le plus dur.
Mais alors, on peut se demander pourquoi avoir choisi cette difficulté du tour de chant?
Mais parce que je trouve que le tour de chant, pour une comédienne ou un comédien, c'est jouer sa vraie nature. Parce que un rôle de théâtre ou un rôle de cinéma, on est enfermé quand même dans un personnage, qui est une sorte de composition à chaque fois, malgré tout. Et je trouve qu'il y a plus de vérité dans un tour de chant, ne serait-ce que parce que c'est le chanteur ou la chanteuse qui choisit ses chansons. Et bien sûr, moi je n'écris pas mes chansons, mais enfin je les choisis tout de même. Je voulais trouver des chansons qui ne soient pas des chansons de texte sans musique ou des belles musiques sans paroles. Il fallait que je trouve vraiment l'ensemble. C'est même assez difficile de trouver les deux, mais je crois que j'ai 10 jolies chansons que j'aime en tout cas, et j'essaye de les faire aimer.
Pendant que les bateaux font l'amour et la guerre avec l'eau qui les broie, pendant que les ruisseaux, dans le secret des bois, deviennent des rivières. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Pendant que les grands vents invente des tempêtes au coin secret de l'air, pendant qu'un jour trop blanc au sable des déserts dessine des margelles. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime.
Pendant que les bateaux, comme elle chante, Daniel Darieux, ici, sur des paroles et une musique de Gilles Vigneault.
Oui, curieusement, donc elle a chanté même du Gilles Vigneault, donc elle aime la chanson d'auteur. Alors en 1970, elle joue en anglais dans Coco, à Broadway. C'est une comédie musicale où elle reprend le rôle de Coco Chanel, créé par son idole Audrey Hepburn, et la critique new-yorkaise salue sa performance. L'année suivante, on la retrouve à Londres dans une autre comédie musicale, Ambassador, avec Howard Keel, et en 1975, elle tourne Divine, un film de Dominique Lelouch avec Jean Le Poulain, qui lui donne la réplique dans le rôle de l'agent artistique.
Mon registre d'actrice, du fait de ma beauté, a toujours été limité. Jouer les séductrices, les femmes adorées, ne m'a jamais beaucoup passionnée. Je rêve d'oripeau, je rêve de misère, de rôle de mégère ou de fleurs de ruisseau. Une composition, pour moi c'est l'évasion.
C'est de l'aberration.
Pour moi c'est l'occasion d'échapper à... Une composition, c'est ma vraie vocation.
De la provocation.
Et c'est la permission de jouer ce que j'aime.
Et toujours donc Daniel Darieux ici en 1975.
Dans le film Divine. Alors en 82, elle participe au film musical de Jacques Demy, Une chambre en ville. Et puis elle continuera à chanter de temps en temps dans ses pièces ou dans ses films, jusqu'au magistral Huit femmes de François Ozon en 2002, où elle incarne une délicieuse grand-mère et interprète le poème d'Aragon mis en musique par Brassens, Il n'y a pas d'amour heureux.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni ses faiblesses, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans âme qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir?
Daniel Darieux en 2002 dans 8 femmes. Daniel Darieux à qui on souhaite encore un très bel anniversaire pour ses 100 ans, Martin Péné, que vous fêtez en archives.
Ben oui, cette immense actrice dont la carrière a débuté en 1931 et qui s'est achevée en 2010 avec une participation au film de Jacques Santamaria, C'est toi, c'est tout. Et souvenez-vous, en 2002, elle avait enregistré en duo avec Patrick Bruel à Paris dans Chaque Faubourg, qui était la reprise d'un succès de film de René Clair, 14 juillet. Alors je rappelle pour finir la parution d'un double CD chez Marianne Mélodie qui réunit ses plus grands succès. Et je remercie Lina pour toutes les archives réunies par Catherine Louboutin.
Merci Martin Péné, je vous souhaite de très bonnes vacances parce qu'on ne se reverra plus avant l'été.
Bonnes vacances Benoît.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je recevrai Marie Nimier, romancière, qui est aussi une passionnée de la voix, de la chanson. Elle en a même écrit quelques-unes. Elle sera donc à ce micro. Bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez maintenant rendez-vous avec Philippe Venturini.